France Culture.
L'indépendance pour moi, comme pour d'autres consoeurs et confrères, c'est pas que le statut juridique d'une entreprise, hein, mais c'est une pratique quotidienne dans notre activité, au service de la collectivité. Indépendance dans nos choix et notre manière singulière d'exercer chaque jour notre participation à la vie démocratique.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Quelle est la place des librairies indépendantes dans nos villes et dans nos villages en France? De quel commerce concret, mais surtout symbolique, sont-elles le lieu? Et qu'est-ce que c'est que cet espace public où l'on passe, regarder, feuilleter, parler des livres, donc du monde, acheter des livres, donc des rêves, de la pensée, des images, du langage? Alors que de récentes attaques économiques par la suspension de subventions ou de vandalisme ont touché des librairies à Paris et ailleurs, nous avons eu envie au Book Club, en nous appuyant sur la parution récente d'une étude sociologique de la librairie au XXIe siècle, de proposer un petit état des lieux, des enjeux sociétaux, économiques, politiques qui traversent ces commerces de proximité. En comparant notre réseau de librairies à ce qu'on peut trouver outre-Manche en Angleterre dans un des marchés du livre les plus dérégulés au monde, la sociologue Sophie Noël nous permet de prendre un peu de champ et mesurer, s'il le faut, le caractère essentiel, central et paradoxal de ces lieux dans le monde culturel. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Sophie Noël.
Bonjour.
Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication, cela à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Vous êtes sociologue donc, vous travaillez principalement sur ce monde du livre ou bien côté édition indépendante, c'était votre précédent champ de recherche, ou bien côté librairie indépendante, c'est plutôt ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Votre ouvrage s'appelle « Le petit commerce de l'indépendance », il a paru aux éditions Presse universitaire de Rennes dans la collection « Le science social ». Bienvenue à vous dans le Book Club, merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être on va faire un petit point de méthodologie, c'est intéressant quand on parle d'une enquête sociologique, de dire qui vous avez rencontré, sur quelle période, quelles données vous avez traitées, avec quelles hypothèses, comment vous avez travaillé, Sophie Noël, sur ce sujet-là. Et peut-être pourquoi aussi, il y a une dizaine d'années, vous vous lancez là-dedans.
Alors pourquoi? Je vais peut-être commencer par ça. Moi j'ai un double cursus, j'ai travaillé dans l'édition pendant une bonne dizaine d'années avant d'opérer ce qu'on appelle aujourd'hui une reconversion et donc de devenir enseignante-chercheuse. Donc je connaissais bien le monde du livre et qu'il y a une certaine facilité en fait à enquêter sur un secteur qu'on connaît déjà un petit peu, en plus de l'intérieur. Donc ça donne un petit avantage. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux petites maisons d'édition indépendantes dans le domaine de la critique sociale. Et j'ai vu que en faisant cette première enquête, j'ai réalisé que l'indépendance, c'était vraiment un concept très important. Et en même temps, personne n'arrivait à vraiment me dire ce que ça voulait dire. Donc voilà, j'ai commencé à
tout à l'heure,
tirer ce fil. Et j'ai réalisé que dans ce qu'on appelle les industries culturelles, ça peut être le cinéma indépendant, le festival indépendant, etc. Il y avait la librairie indépendante qui était un vieux commerce, finalement, et que ce terme indépendance avait une histoire, et très particulière en France, notamment. Et ça m'intéressait de voir un petit peu ce que le commerce faisait à l'indépendance.
Et inversement.
Et inversement.
Est-ce que l'indépendance fait au commerce?
Est-ce que l'indépendance fait au commerce? Tout à fait. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur ça. Et puis, il y a une bonne question aussi qui est celle de l'accès au terrain quand on est sociologue. Et les librairies présentent ces caractéristiques merveilleuses d'être à peu près partout et très facile d'accès. Il suffit de pousser la porte. Et donc, c'est vrai que ça m'a aidée parce que j'avais pas besoin de négocier pendant des mois avec des gens qui avaient pas le temps de me recevoir, etc. Dès que je passais dans une ville ou dans un village ou dans Paris, j'allais voir les libraires, je discutais, je prenais rendez-vous avec eux. En général, ils étaient très gentils et très heureux de me parler. Donc je suis partie de ça et ça m'a permis pendant... Voilà, je l'ai fait sur le long terme, c'est une enquête de longue haleine.
Sur à peu près combien d'années?
Je dirais 8, bien 8 ans. Et puis en fait, j'ai pris un peu le virus, donc dès que je vais quelque part et qu'il y a une librairie, j'aime bien aller voir les libraires, discuter avec eux. Donc j'ai accumulé énormément de données comme ça au fil du temps.
Est-ce qu'il y a des hypothèses? Est-ce qu'il y a des grandes questions qui guident votre travail? Donc on l'a entendu, qu'est-ce que l'indépendance fait au commerce? Qu'est-ce que le commerce fait à l'indépendance? C'est déjà deux grands sujets de recherche. Est-ce que vous partez avec d'autres hypothèses, avec d'autres grandes questions pour votre enquête?
Il y avait une autre deuxième question qui me taraudait, c'était de constater, notamment dans les médias, à quel point la figure du libraire était devenue importante. Et je me disais, en fait, c'est le plus vieil intermédiaire culturel, d'une certaine manière, le plus ancien, le libraire. Et pendant longtemps, il y avait quand même une image un peu désuète, un petit peu, voilà, c'est le libraire un peu des années 50, un peu ancien, classique. Et je constatais que les libraires étaient devenus, pour plein de raisons, une figure très positive, associée à la découverte, à l'ouverture, enfin tout, et de résistance, surtout.
Mais ça, vous le remarquiez voilà. Avant 2020 ou vraiment accentué 2020. Après 2020?
Oui, ouais. J'étais partie de cette, c'était une de mes hypothèses de dire comment le héros, comment le libraire, pardon, est devenu d'une certaine manière une sorte de héros culturel qui va défendre les centres-villes, qui va les commerces de centre-ville, qui va défendre l'accès à la culture. Et en creusant un petit peu, en lisant les historiens, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur la librairie, j'ai réalisé que c'était assez nouveau comme phénomène et le fait est qu'il n'a fait que s'accentuer depuis que j'ai commencé à travailler sur la librairie.
Avec un petit moment particulier sur lequel on va évidemment revenir, qui est la crise à la fois nationale et internationale autour du Covid en 2020, et où il y a eu en effet toute cette question de doit-on garder ouverte ou doit-on fermer les librairies, et la question du rapport essentiel que nous pouvons avoir avec cet endroit. Ça a donné une sorte de petit virage à votre étude, Sophie Noël, cette période-là?
C'est venu vraiment en fin de course. Donc je l'ai intégré plutôt dans l'introduction, dans la manière de poser le sujet. Mais c'est vrai que j'étais très impressionnée de voir à quel point il y avait eu cette cristallisation sur la librairie de tous les commerces culturels, ou même les cinémas, les théâtres, on en a parlé, mais pas autant que la librairie. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un enjeu de civilisation, quoi. Dans des moments difficiles, dans des moments de crise, la librairie devenait un point de cristallisation de
d'ailleurs,
ce qu'on voulait garder.
C'est un grand mot qui revient dans votre étude, la question de la civilisation, c'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure en avançant et en dépliant les différentes thématiques que vous abordez avec vos interlocuteurs, l'idée qu'il se joue là quelque chose de la civilisation, ça pourrait vraiment paraître grandiloquent. Or, concrètement, Sophie Noël, c'est un mot qui est utilisé à la fois par vous et par vos interlocuteurs. Puisqu'on est sur les mots, commençons par celui-ci, l'indépendant, ou ce que c'est qu'être indépendant. On va écouter la voix d'Alexis Argiroglou. Il est à la tête d'une librairie qui s'appelle La Petite Égypte, à Paris. Il nous dit ce qui, pour lui, et peut-être pour ses confrères et consoeurs, est l'indépendance.
L'indépendance, pour moi, comme pour d'autres consoeurs et confrères, c'est pas que le statut juridique d'une entreprise, hein, mais c'est une pratique quotidienne dans notre activité, au service de la collectivité. Indépendance, d'abord dans nos choix et notre manière singulière d'exercer chaque jour notre participation à la vie démocratique. Mais on peut aussi parler d'interdépendance. Une interdépendance parfois subie et parfois choisie, heureusement. Et souvent choisie. Nous dépendons du marché, des contextes économiques, politiques, de la production des savoirs, qui ne dépend pas de nous, des mouvements sociaux, de la vie locale, etc. Alors notre rôle est de proposer un lieu de production sociale d'un certains désirs, un désir de savoir, un désir de lien, un désir de débat, un désir de communauté, etc. Participant pleinement de la construction d'un espace public, c'est-à-dire d'un lieu accessible gratuitement, de passage et de rassemblement, à l'usage de toutes et tous, où les personnes se croisent, se rencontrent, échangent, et plus si affinité. La librairie est un lieu de commerce, mais d'un commerce un peu particulier.
Ce commerce un peu particulier qui revient dès votre titre, Sophie Noël, le petit commerce de l'indépendance, c'est le titre que vous donnez à cette enquête sociologique parue aux presses universitaires de Rennes. Alexis Argiroglou, à la tête de La Petite Égypte, définit ce qui recouvre pour lui l'indépendance et il en passe pour cela par un autre terme qui serait l'interdépendance. C'est intéressant de s'arrêter sur la manière dont il construit, lui, la définition de l'indépendance de son commerce. Et puis pour en venir à la manière dont vous discutez et définissez ce mot commerce indépendant, Sophie Noël, l'idée d'être interdépendant, notamment de dépendre du marché, de la politique de construction des savoirs, du mouvement social, de la vie locale, on l'oublie, mais il est très pris là-dedans, dans tous ces tissus-là, le commerce de la librairie.
Tout à fait, et je reconnais complètement dans cet extrait que vous avez passé les propos de tous les libraires que j'ai rencontrés. En fait, quand je venais les voir, une des premières questions que je leur posais, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour vous être indépendant, être libraire indépendant. et je les laissais m'expliquer, partir dans voilà, et c'était assez complexe, mais il y avait des régularités, il y avait des choses qui revenaient tout le temps.
Mais sachant qu'il y a quand même un statut légal.
Sachant que voilà,
alors commençons par ça peut-être.
Voilà, ouais. Peut-être commençons par le statut légal ou juridique. Il y a une définition de ce qu'est une librairie indépendante, et c'est bon, voilà, c'est une définition qui est une définition de communautaire, hein. Il y a un certain nombre de critères. Il faut ne pas dépasser une certaine taille, un certain chiffre d'affaires, et il faut que au moins 50% du capital soit possédé par des personnes physiques. Donc, en gros, c'est ne pas appartenir à une enseigne, à un autre groupe, à une maison d'édition, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, finalement, parce que le commerce physique du livre est très, très divers en France. Il y a énormément de points de vente du livre, il n'y a pas que la librairie indépendante. Et très rapidement, en fait, les libraires que je rencontrais, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, mettaient en avant l'interdépendance. C'est-à-dire, on est indépendant, c'est sûr. En tout cas, notre pratique est indépendante. Je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus. Mais on est inséré dans la chaîne du livre. C'est vraiment la notion de chaîne du livre qui est importante. C'est-à-dire que le libraire, c'est le maillon final, en fait. Après, il y a les auteurs, il y a les éditeurs, il y a les diffuseurs, distributeurs. Et puis, tout en bout de chaîne, il y a le point de vente. Et c'est l'acte de vente en librairie qui va permettre qu'il y ait de la valeur qui se crée et que les gens soient rémunérés à tous les échelons. Donc ils sont vraiment en bout de chaîne, ils viennent au dernier moment. En même temps, ils sont un lieu et un moment central pour justement créer cette valeur. Mais voilà, ils sont extrêmement dépendants. Ils peuvent choisir les livres qu'ils veulent, entre guillemets, mais en même temps, il y a une rentrée littéraire.
Qu'ils veulent mettre, par exemple, sur leur table, voilà. Qu'ils veulent mettre en avant, qu'ils veulent conseiller. Ça, c'est un des grands pans de l'indépendance sur lequel reviennent les personnes que vous choisissez d'interroger, Sophie Noël, c'est la possibilité de défendre certains ouvrages et les ouvrages qu'ils veulent.
Exactement. Il y a un mot qui revenait, une expression qui revenait souvent, que je trouvais très intéressante. Souvent, les libraires me disaient « c'est ma librairie, je suis chez moi ». Donc, potentiellement, je fais ce que je veux. S'il y a un livre que je ne veux pas, ben, si on me le demande, je le commande, bien sûr. Je suis tenue de le commander. Mais j'ai pas forcément envie de le mettre en vitrine, de le mettre sur les tables. C'est pas un livre qui me plaît, j'y crois pas, et je construis mon offre. Il y a vraiment cette idée de construction de l'assortiment, c'est-à-dire les livres qui sont présents en librairie, et d'une construction de l'offre.
Et cette construction de l'offre, elle recouvrait quoi pour vos interlocuteurs et interlocutrices? C'est quoi? C'est une vision du monde? C'est une vision du marché? C'est une vision de l'état de l'édition?
C'est un compromis. La notion de compromis est très très puissante. C'est-à-dire, c'est un compromis entre ce qu'ils voudraient idéalement mettre et leur public, leur clientèle. C'est-à-dire qu'ils connaissent très très bien ce qu'ils appellent la zone de chalandise. Être libraire, dans le centre de Paris, c'est pas la même chose qu'être libraire dans le Gers. On n'a pas forcément la même population, les mêmes caractéristiques. Donc ils connaissent très bien leur clientèle, donc ils savent jusqu'où ils peuvent aller dans ce qu'ils peuvent leur présenter, leur faire découvrir. Et en même temps, ils ont envie qu'aussi les gens se trouvent bien chez eux, trouvent les livres dont on parle, qui potentiellement ils vont avoir envie de lire, acheter pour leurs enfants, etc. etc. Donc c'est un espèce de rencontre entre ce qu'ils adoreraient avoir dans une espèce de librairie idéale et ce qu'il faut avoir malgré tout. Et c'est en ça qu'ils sont contraints et interdépendants.
Ce qu'on entendait aussi dans la voix d'Alexis Argyroglou, c'est l'idée d'un espace public, d'un espace de passage, d'un espace de rencontre. Et là, on voit bien, rapidement, et ça existe aussi dans les paroles que vous recueillez, que ça excède le seul commerce. C'est aussi là-dessus que joue votre titre. C'est le petit commerce de l'indépendance. C'est bien qu'il y a autre chose qui circule au-delà de l'argent et de la valeur économique, Sophie Noël, dans ces lieux-là. Donc ça en fait un lieu un peu paradoxal.
Ça, c'est vraiment une des découvertes de l'enquête qui m'a impressionnée. C'est de réaliser à quel point, bien que ce soit un commerce, bien que tous et toutes le disent, hein, une librairie ne peut pas se permettre, on a des charges à payer, on a...
Ouais. Des loyers en centre-ville qui sont super élevés,
exactement.
Des salaires.
Des remises qui sont faibles, des salaires qui sont trop faibles. Donc, ils sont extrêmement contraint économiquement, c'est un commerce très fragile. La librairie, c'est un des plus fragiles des commerces de centre-ville, avec les marges les plus basses. Et en même temps, dans les discours et dans les imaginaires, il y a cette volonté de dire, Il y a une volonté de désintéressement aussi. Ils sont au service de la littérature, ils sont au service de la culture, de la on peut mettre plein de termes comme ça, de la démocratisation, de la culture.
Voire de la démocratie.
Voire de la démocratie, et beaucoup aujourd'hui. Il y a cette idée d'une forme de mission ou de service public, bien que ce soit des commerces privés. Donc c'est complètement paradoxal. Ils sont un peu coincés entre des attentes qui sont extrêmement fortes. C'est un lieu culturel, c'est un lieu de commerce, c'est parfois un service public avec des ateliers pour les enfants,
des rencontres le soir. Il y a aussi des librairies qui, par exemple, disent que dans telle ou telle ville de plus ou moins grande taille, voire des villages, les rencontres qu'ils vont organiser avec des autrices ou des auteurs sont les seuls événements culturels ou à dimension, de discours, de pensée qui va avoir lieu d'ici 2 semaines, par exemple. Et donc, ils ont aussi un très grand rôle de lien social, de faire communauté, de créer des moments de conversation. Est-ce que ça, c'est revenu dans les personnes que vous avez interrogées, Sophie Noël ?
Oui, énormément. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment conscience d'être sur un rôle social presque à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent vivre leur commerce. Ils sont des petits patrons, il y a quand même cette dimension-là.
Oui, ce n'est pas des bibliothèques.
Non, pas du tout. Et malgré tout, ils se retrouvent dans... une situation d'animateur culturel. L'animation culturelle a énormément progressé. On leur demande d'animer les réseaux sociaux autour de la librairie, de faire vivre leur site internet, d'avoir parfois 2-3 soirées, rencontres avec des auteurs dans la semaine. Ça se prépare. Ça, c'est pas très éloigné des métiers de la médiation culturelle. Ils préparent des questions. Souvent, ça génère du stress. Ils reçoivent un auteur ou une autrice qu'ils admirent. Donc, il va falloir... s'assurer qu'il y a un minimum de personnes présentes aussi. Quand vous invitez un auteur, vous le faites venir, parfois en province, et vous avez 10 personnes qui viennent, c'est très angoissant, c'est très déstabilisant. Donc ils sont vraiment sur un métier qui est très riche, qui le rend très attractif d'ailleurs.
Mais on y viendra.
Qui est lourd.
Qui est lourd et puis qui n'est pas toujours à la hauteur en termes de rémunération. Puisque vous parlez d'une sorte de statut étrange, tout à fait à la fois privé, commerce, devant faire grosso modo marcher la boutique, et c'est pas peu de le dire, et en même temps l'idée que ça se rattache à une idée du service public, quelle est la part de l'argent public qui est injecté dans la librairie, à quelle part ces commerces sont-ils aidés, ça aussi ça pourrait paraître paradoxal, et quel genre de soutien?
Alors c'est très variable selon les lieux et selon les librairies, mais ce qui est sûr, c'est que depuis en gros les années 2000, il y a eu une prise de conscience de tous les acteurs de la chaîne du livre et des pouvoirs publics que la librairie c'était le maillon faible de la chaîne et que la loi Lang était très importante, donc la loi sur le prix unique.
Précisons simplement, donc reprécisons, 1981, on va entendre dans un instant Jérôme Lindon qui est l'un des grands artisans de cette loi avec Henri Cosse, mais je vous écoute, oui.
Oui, donc il y a ce cadre légal sur lequel on reviendra qui fait que le livre a le même prix partout, à 5% près de remise possible, qui est donc censé protéger les petits par rapport aux gros et aux chaînes et aujourd'hui à Internet.
Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que si on est une très grande enseigne, et qu'on a la capacité d'acheter un stock énorme de tels livres, eh ben on ne peut pas décider que pour des questions tout simplement de commerce, ce livre va sortir à 5 euros dans cette très grande enseigne et demeurer à 22 euros dans un petit commerce. Ça n'est pas possible en
France. Ce n'est pas possible en France, c'est possible dans d'autres pays. Mm-hmm. Avec des conséquences très lourdes pour les libraires. Mais j'ai perdu votre première question.
En 81, on réalise que c'est le maillon faible,
oui.
Donc...
Voilà, que c'est le maillon faible et que la loi Lang ne va pas suffire. Et qu'il va falloir protéger de manière particulière, notamment les librairies, parce qu'elles jouent un rôle important dans ce qu'on appelle la bibliodiversité, c'est-à-dire la richesse de l'assortiment. C'est-à-dire qu'une librairie, on sait aujourd'hui, les éditeurs le savent, en littérature ou en sciences humaines, sur les nouveautés, quand c'est pas un best-seller annoncé, une autrice ou un auteur que tout le monde connaît, les librairies sont des lieux pour découvrir, pour soutenir. Donc ils sont un maillon indispensable au maintien d'une certaine bibliodiversité.
On va y venir. Alors justement, qu'est-ce qu'ils font pour soutenir ? Comment est-ce que les pouvoirs publics ou comment est-ce que la prise de conscience se transforme en aide concrète, Sophie Noël ?
Alors, il y a le Centre National du Livre qui accorde le poids des librairies dans le budget du Centre National du Livre a beaucoup augmenté. Auparavant, c'était principalement les éditeurs, les festivals et les auteurs. Aujourd'hui, la librairie a beaucoup, beaucoup monté dans les aides. Donc, ça peut être des aides à la modernisation, à l'agrandissement, à un certain nombre d'investissements, aux invitations d'auteurs aussi, etc. Il y a aussi la DELC, hein, qui est une entreprise privée, hein, d'éditeurs qui se sont mis ensemble pour aider justement ce qu'ils appellent la librairie de création.
Avec des labels qui sont accordés en fonction de certains critères.
Voilà, le label Lire, librairie indépendante de référence, qui a été créé en 2009 par le ministère de la Culture. Et puis les régions, certaines régions accordent des aides très importantes aux librairies, en tout cas très constantes.
Et à l'autre échelle, département et ville aussi, puisqu'il est question de subventions qui ont été justement supprimées ou suspendues par le Conseil de Paris. C'est aussi les compétences des villes ?
Tout à fait. C'est vraiment, on trouve ça à tous les échelons. C'est beaucoup au niveau régional, mais la ville de Paris, par exemple, a une politique particulière pour la préservation des librairies. Donc, on peut trouver ça à tous les échelons.
Ça veut dire qu'on peut parler d'une politique public de soutien financier au commerce de la librairie.
Tout à fait. Et ça s'est pas fait de manière si naturelle que ça, même si aujourd'hui, il y a peu de voix pour s'opposer à ça. C'est-à-dire l'idée que des commerces privés puissent bénéficier...
Oui, ça pourrait paraître étrange.
Ouais. ...d'aide publique pourrait paraître étrange et ça s'est installé progressivement. En tout cas, le commerce, parce que les maisons d'édition bénéficient de subventions du CNL depuis longtemps, mais voilà, le statut de l'éditeur n'est pas le même que ce statut de la boutique du commerce. Donc ça, c'était un petit peu une révolution. En même temps, on peut prendre l'exemple du cinéma. Hein. Les cinémas art et essai sont aidés depuis longtemps. C'est un des modèles pour la librairie.
Vous parliez de bibliodiversité et en effet, après le mot indépendance, le mot diversité a une très grande importance dans l'analyse sociologique que vous faites de la librairie indépendante. On va entendre une archive de Jérôme Lindon, 1988. Je le disais, il fait partie des grands artisans auprès de Jack Lang de cette loi du prix unique. Et il parle de l'importance de la diversité en librairie.
Les libraires, c'est une caractéristique importante, tu vois, sont des gens qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas de livres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je les privilégie dans toute enquête en matière de livres, parce que c'est vraiment des gens dont l'existence dépend même du livre. On se plaint souvent de ce que, alors, à l'intérieur de la profession, que les libraires ne constituent pas une entité très cohérente, fortement syndicalisée, ayant un avis définitif sur toutes les questions. Mais ce qui peut apparaître comme une faiblesse à certains égards constitue aussi une force au plan, disons, culturel, dans la mesure où, justement, ça garantit sa liberté. Personne ne peut mettre la main sur la librairie française, parce que la librairie française, elle existe en tant que telle, et que même si, dans certains cas, certains éditeurs, par exemple, ont pu exercer une pression, par exemple, sur telle ou telle forme de librairie, il y en a d'autres qui ont été d'un avis différent, et par conséquent, cette diversité me paraît un des principaux garants de la liberté d'expression. Plus il y a de libraires indépendants, plus il y a des chances qu'il y ait des livres divers et par conséquent des livres de qualité dans un pays. En revanche, plus on centralise, plus on fait dépendre le commerce du livre d'entités économiques qui ne sont pas forcément intéressées par les problèmes culturels, et plus les risques sont grands de voir l'édition se conformer à ce type de totalitarisme.
La voix de Jérôme Lindon, grand éditeur français à la tête des éditions de Minuit, ce qui nous permet de saluer la mémoire d'Irène Lindon qui avait pris sa suite aux éditions de Minuit et qui a disparu il y a quelques jours. Comment expliquer l'idée que l'indépendance de la librairie française garantit ou est censée garantir la bibliodiversité qu'appelle de ses voeux Jérôme Lindon dans une autre archive? Il dit concrètement, si on n'a plus ce tissu-là, il y a clairement des auteurs et des autrices qu'on ne pourra plus publier.
C'est toute l'idée qui est très chère à Jérôme Lindon de la prise de risque. Il a beaucoup théorisé ce concept. Pour lui, un vrai éditeur, c'est quelqu'un qui prend des risques sur des auteurs, comme lui l'a fait sur Beckett à l'époque, que personne ne voulait publier et qui au départ s'est vendu à quelques dizaines d'exemplaires avant de devenir... Voilà l'ouvrage, les ouvrages importants que l'on sait. Et donc c'est cette idée très importante que, et qui préside d'ailleurs à la loi Lang, hein, c'est que les livres sont des créations de l'esprit et qu'on ne peut pas laisser les créations de l'esprit à la loi de l'offre et de la demande.
Parce... Si on ne fait que répondre au marché, on vend plus Beckett.
Voilà,
non
exactement.
Non seulement on ne le publie pas, mais en plus, on ne le met pas en table.
Exactement.
Parce que clairement, au début en tout cas, ça ne se vendra pas.
Ça ne se vendra pas. C'est un marché de l'offre et pas de la demande. C'est l'idée qu'on ne répond pas uniquement à une demande, qu'il y a plein de choses que, en fait, on... Bon, c'est cette idée aussi qu'on peut, qui se décline en librairie de la sérendipité. C'est-à-dire qu'il y a plein de livres, on ne sait pas qu'on aurait envie de les lire et qu'on les aimerait beaucoup parce qu'on n'a jamais entendu parler des auteurs, on ne sait même pas que ce livre existe. Et si on ne le voit pas sur une table ou s'il n'est pas recommandé par un critique ou par un podcasteur, qu'importe...
Il n'existe pas.
Il n'existe pas. Peut-être qu'il a été publié, mais jamais je le verrai et je ne saurai jamais qu'il existe, donc je ne pourrai pas le découvrir. Et ça, c'est le rôle vraiment très très important des libraires, c'est de ne pas uniquement se contenter des livres qui se vendent. Donc ça, c'est un marché de la demande, on répond à une demande préexistante. Cette idée que l'offre, elle se construit.
Et alors pourquoi est-ce que la librairie indépendante, elle est particulièrement importante pour n'être pas que dans une politique de la demande, de répondre à la demande et d'être dans une politique de l'offre? En quoi est-ce que ce commerce-là joue un peu moins, et peut-être qu'on va nuancer ensuite notre propos, Sophie Noël, cette loi unique du marché?
Parce que là, on est vraiment au cœur d'une approche un peu sociologique des parcours de ces personnes, de cette génération qui est apparue en 80, dans le sillage de la loi Lange, de la loi Lang, dans les années 80, pour qui le commerce du livre n'était pas un commerce comme les autres, et que il en allait de leur identité. C'est-à-dire qu'ils se vivaient pas uniquement comme des vendeurs de livres. C'est un repoussoir, le terme de vendeur de livres. Pour les libraires, les vendeurs de livres, c'est dans les grandes surfaces. Eux, ils sont libraires. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne le vivent pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'ils défendent une certaine vision de la culture, leur goût. C'est une mise en avant. Le commerce du livre leur permet aussi de décliner leur personnalité, leur goût.
Oui, il y en a qui disent, même des libraires, qui pourraient dire à la librairie, c'est moi. Et ce que je vends en librairie, c'est une partie de ma personnalité. Je m'y dévoile, je m'y révèle.
Exactement.
C'est ma vision du monde. Et en même temps, on entend bien aussi aujourd'hui que la question de la centralisation a bien des égards, que ce soit la manière dont sont possédées par certaines figures, et notamment à l'extrême droite, de plus en plus de maisons d'édition et d'organes de presse. Mais aussi, par exemple, on a beaucoup entendu à cet automne, les personnes qui rentraient en librairie voulait, alors il se trouve que c'est deux textes géniaux, mais voulait le Laurent Mauvignier et l'Emmanuel Carrère. C'est une forme de centralisation. Comment est-ce que la librairie indépendante continue à produire de la diversité quand la demande, elle est si forte? Je dis ça, mais il y a aussi les grands noms, Amélie Nothomb, enfin, ceux qui sont très demandés en rentrée littéraire.
Ils sont obligés de jouer sur les deux. C'est des synergies, un équilibre entre eux. Il faut aussi, pour qu'ils survivent en tant que commerce, il faut aussi qu'il y ait ces locomotives commerciales, des livres qui se vendent très, très facilement, qui ne leur demandent pas d'efforts, en fait, puisque ils sont
les gens
déjà
rentrent,
prévendus.
Bah oui, voilà.
Ils savent ce qu'ils veulent. Mais en fait, les librairies indépendantes en France sont très liées à, ce qui fait leur différence. C'est l'idée de, chez nous, il y a du conseil. C'est-à-dire, chez nous, vous allez trouver une offre construite, qui a été réfléchie, pensée, en littérature étrangère. Je peux vous offrir ça. Si vous cherchez des nouvelles idées, que vous en avez assez de tous les bouquins, des bouquins dont tout le monde parle, ben moi, je peux vous proposer un autre chemin, d'autres découvertes. Il y a toujours, dans les librairies indépendantes, des tables, des coins, des petites pancartes, des petits coups de cœur, c'est vraiment la marque de la librairie indépendante. C'est aussi de personnaliser le choix de la personne qui est derrière, des personnes qui sont derrière. Souvent, il y a un prénom. Ce livre vous est recommandé par Ingrid, par...
Et en même temps, c'est très important aussi qu'une librairie ne fonctionne pas qu'au coup de cœur, qu'il y ait ce qu'on appelle, Sophie Noël, une conscience du fond de cette librairie, d'être capable de faire aussi vivre des catalogues et la profondeur de ces catalogues. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? C'est-à-dire que des librairies qui fonctionneraient que à 5 coups de cœur, certes 5 coups de cœur marginaux, qui ne seraient pas dans les hits, mais néanmoins que 5 coups de cœur. Pourquoi est-ce que ça non plus, ça ne va pas pour ce qui est de la biodiversité du livre que Jérôme Lindon et d'autres appelaient de leur vœu?
Ben parce que ça serait trop limité et que ça ne suffirait pas déjà à porter le commerce, et qu'il y a cette idée de profondeur, comme vous le dites, de profondeur de catalogue. Et en ça, il y a vraiment une homologie entre le libraire et l'éditeur. Une maison d'édition, ça doit aussi travailler son fond et elle ne peut pas fonctionner uniquement avec des nouveautés. il faut aussi qu'il y ait des auteurs de fond qui, quand Mauvigné obtient le prix Goncourt, on remet en avant.
Magnifique, voilà
toute
une historique de la publication des éditions Mini.
Exactement. Moi, j'ai vu dans plein de librairies des petits présentoirs avec tous les livres. Ça donne envie d'en lire d'autres. Ils avaient fait, très souvent, pour Annie Ernaux, c'était pareil quand elle a obtenu le prix Nobel. Ça permet de remettre le projecteur sur le long terme et d'avoir envie de pas passer uniquement de nouveauté en nouveauté, mais aussi
de s'intéresser à ce que c'est qu'une politique d'auteur, à une œuvre dans la longueur.
Bon. Ça se construit patiemment des carrières d'auteur comme ça.
Mais tout comme se construisent patiemment des carrières de libraire, Sophie Noël, et c'est ce à quoi vous vous intéressez dans cette sociologie de ce métier-là, de la librairie indépendante, avec des enjeux très importants de formation des jeunes libraires, de rémunération de ces jeunes libraires, surtout quand, vous le disiez en début d'émission, ce métier jouit depuis quelques années d'une image et d'un aura assez positif. On va revenir quelques années en arrière, on est en 2006, on va entendre la voix de Jean-Marie Ozanne, qui crée la librairie Folie d'encre à Montreuil. C'est la première librairie indépendante de Seine-Saint-Denis créée en 1981 qui va nous permettre aussi de parler du caractère situé de ces librairies indépendantes, des espaces sociaux et géographiques dans lesquels ils exercent leur métier. 2006 donc, et la voix de Jean-Marie Ozanne.
La librairie indépendante consacre entre, on va dire, 16 et 21% de son chiffre d'affaires pour les masses salariales. Dans les grands magasins spécialisés, Jean Fnac et Virgin, pour ne surtout pas les citer, ça ne dépasse absolument jamais 12%. Ce serait une grave erreur de gestion pour eux. Dans un hyper ou dans un super, on est en dessous de 6%. Ce choix-là, c'est un choix décisive, c'est-à-dire c'est l'investissement en personnes qui vont être bien évidemment des médiateurs et des médiateurs de la création. Donc, savoir est-ce que demain on voudra continuer à rémunérer effectivement ces médiateurs, la grande question, elle est là.
Continuer à les rémunérer, à quelle hauteur, comment les former? Jean-Marie Ozanne, il y a 20 ans, posait ces questions-là. Aujourd'hui, la librairie est dirigée par Amanda Spiegel à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Dans l'étude sociologique que vous faites, cette enquête, Sophie Noël, quelle place prend la considération de ce qui vient? Formation, rémunération, carrière, d'une certaine manière, de ces nouveaux libraires?
Et moi, j'ai été extrêmement frappée parce que j'ai eu la chance de pouvoir suivre une cohorte de jeunes libraires en formation à l'école de la librairie, qui est un des lieux de formation des futurs libraires. Et j'étais impressionnée de voir à quel point ce métier continuait de faire rêver, à faire rêver tout, alors que ces conditions d'exercice sont vraiment très difficiles. C'est vraiment des métiers où on est très mal payé. D'ailleurs, personne ne s'en cache, hein. C'est dit de manière très claire. Ça représente.
Alors pourquoi est-ce qu'on est si mal payé? Puisqu'il y a à la fois un niveau symbolique important, souvent un niveau d'études important aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette formation en école de librairie, mais parfois ce sont des personnes qui arrivent là et qui ont déjà un bac plus 3, un bac plus 4, qui un bac plus 5 quand il y a des reconversions, ce qui est assez courant aujourd'hui dans des reprises ou dans des arrivées dans ce nouveau métier de libraire. Alors qu'est-ce qui explique qu'on est si bas dans les rémunérations? Et on entendait aussi dans cet archive de Jean-Marie Ozanne l'idée qu'il faut notamment dans la librairie indépendante qu'on consacre tant de pourcentage, donc 12% au moins, si je ne m'abuse, du chiffre d'affaires à la rémunération des personnes qu'on emploie.
Il y a un certain nombre d'aides, pour revenir aux aides publiques, qui sont conditionnées au fait qu'il y ait un minimum soit consacré à la rémunération. C'est toujours cette idée de la différence entre le vendeur de livres et le libraire. Le libraire, il a une compétence importante, comme vous le disiez, il connaît les fonds, il connaît l'histoire des maisons d'édition, ils ont souvent un savoir, mais vraiment encyclopédique sur l'espace de la littérature, par exemple, ou de la BD. Et effectivement, ça se paie normalement ce type de compétences. Mais le marché du livre est extrêmement contraint et les parts, quand on voit, on a des graphiques,
des camemberts,
des jolis camemberts avec des petites parts comme ça sur la part qui est pour les auteurs, pour l'éditeur, pour la diffusion, la distribution, qui est très importante pour acheminer les livres physiquement sur les points de vente, et pour la librairie, sachant que ils ont des baux souvent en centre-ville. villes qui ont monté en flèche.
Des loyers très importants.
Des loyers très importants. Le prix des livres a très peu augmenté. Il a suivi un tout petit peu l'inflation ces dernières années, mais ça faisait 20 ans qu'il ne bougeait pas. Parce que, voilà, on sait aussi que les pratiques de lecture sont en baisse, donc on ne va pas augmenter le prix des livres. Donc, l'équation est extrêmement contrainte.
C'est pour ça que, quand même, quand Alexis Argiroglou disait à la fois on est indépendant et on est tellement interdépendant. C'est-à-dire que, par exemple, quand il dit on est dépendant de la situation économique d'un pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à peut-être se l'imaginer, mais... Puisqu'il y a, je sais pas, telle hauteur du salaire minimum, puisqu'il y a, je sais pas, menace sur les retraites, puisqu'il y a un marché de l'emploi qui va être dans cet état-là. C'est-à-dire que tous ces ingrédients-là rentrent quand on va décider d'acheter un ou deux bouquins dans une librairie, ou trois, ou en poche. En fait, on est vraiment dépendant presque. Il y a aussi des libraires qui disent, mais l'état du monde joue sur le fait qu'on va ou non consacrer tant d'euros par mois à acheter telle nouveauté. C'est impressionnant à quel point ce commerce-là est lié. Alors, on pourrait dire tous les commerces, mais plus singulièrement encore, Sophie Noël.
Oui, c'est un reflet du monde, hein, d'une certaine manière, la librairie. Et moi, ce que j'ai constaté aussi, c'était ce côté qui m'a beaucoup frappé, la librairie comme un refuge. Un refuge à la fois physique, c'est un lieu souvent très travaillé par les libraires, un lieu dans lequel ils veulent que les gens se sentent bien, que ça soit un petit peu comme un prolongement de leur chez eux, de leur maison. Donc il y a cette idée d'accueil, de il faut vraiment travailler la décoration de la librairie, donc un refuge physique, mais aussi un refuge presque moral. Et c'est-à-dire que vous disiez l'état du monde, etc. Mais effectivement, on l'a vu au moment du Covid, au moment des attentats de 2015, souvent dans des moments très difficiles comme ceux-là, les libraires voient affluer des lecteurs à la recherche de clés de compréhension. Et le livre a encore ce statut assez incroyable de refuge et de stabilité et de légitimité du savoir. C'est-à-dire qu'ils veulent des livres, ça c'est sûr, c'est une valeur sûre.
On entendait aussi dans la voix de Jean-Marie Ozanne utiliser ce mot de médiateur, de médiation. Il se trouve que lui, il a ouvert en 81 une librairie indépendante à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui n'était pas le Montreuil d'aujourd'hui, c'était il y a plus de 40 ans. Vous faites aussi, Sophie Noël, une part importante à la non-idéalisation de cet espace-là. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, nous en parlons comme un espace refuge, comme un espace démocratique, un espace ouvert, un espace chargé de fabriquer du tissu social. Vous dites bien, attention, tout le monde n'y entre pas, attention, ça n'est pas implanté partout, ça n'est pas non plus le lieu idéal, totalement idéal de la démocratie.
Non, tout à fait, il y a des caractéristiques très particulières de la librairie. Comme vous le disiez, les gens qui créent des librairies sont souvent des gens très diplômés et qui inévitablement projettent une certaine vision du monde dans leur attention aux ouvrages qu'ils vont sélectionner, etc. Il y a un idéal très fort chez eux, chez elles et chez eux, de... Ils veulent que ça soit un lieu ouvert à tous. Mais ça, c'est le projet. C'est pas toujours le réel. On sait, il y a de nombreuses études sur le sujet, on sait qu'il y a plein de gens pour qui la librairie demeure un lieu très intimidant. Et qui n'est pas suffisamment anonyme. D'où la force d'Amazon, des lieux d'achat en ligne ou des supermarchés, c'est que personne ne va vous juger. Vous achetez un livre, de la romance, qu'importe. Je vais pas avoir le regard un peu méprisant de la libraire. Heureusement, la plupart des libraires sont pas comme ça, mais il y en a encore beaucoup qui sont un petit peu snobs. Et il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans une librairie. C'est pas pour eux. Bien que ce soit ouvert à tous, ils n'y entreront pas.
Ce qui rejoint d'autres considérations de la sociologie de la culture et qui disent que il y a encore énormément de personnes, quel que soit leur âge, qui ne se sentent pas d'entrer dans un théâtre. Il y a des personnes qui ne se sentent pas d'entrer dans un cinéma d'art et essai. Il y a des personnes qui ne se sentent pas la légitimité d'allumer telle ou telle chaîne de radio. Ça rejoint aussi tout ce qu'on peut appeler la sociologie des pratiques culturelles, d'une certaine manière, Sophie Noël.
Tout à fait. Oui. Il y a la clientèle de la librairie indépendante a des caractéristiques particulières.
Et alors, comment on fait pour aller contre ces biais? Puisqu'on entendait dans la voix de Jean-Marie Ozanne l'idée selon laquelle les libraires doivent être des médiateurs, c'est-à-dire éventuellement ces frontières-là qui sont encore bâties haut, comment est-ce qu'on les fait tomber?
Il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a quand même des efforts assez notable de libraire qui s'installe, bah, comme l'a fait Jean-Marie Ozanne hein, il y a 40 ans, qui a essaimé hein, Folie d'encre, il y en a à Saint-Denis, il y en a dans... Aujourd'hui, il y en a 7 ou 8, je crois, en Seine-Saint-Denis. Le panier moyen est beaucoup plus faible que dans une librairie du 5e arrondissement. Mais voilà, il y a des libraires qui mènent ce combat, qui est un petit peu un combat qu'on peut rapprocher à celui de l'éducation populaire, avec cette volonté d'aller à l'avant, d'aller vers les publics scolaires, empêchés. Il y a des projets très, très orientés dans ce sens-là. Et puis, il y a tout les zones rurales. Il y a des librairies qui ouvrent dans des endroits vraiment assez improbables.
Et qui fonctionnent.
Et qui fonctionnent très bien, avec une idée, un projet souvent un peu tiers-lieu, c'est-à-dire ils font beaucoup d'ateliers, beaucoup d'activités culturelles, ils sont très insérés dans le tissu social.
Et là, on rejoint l'idée que c'est un commerce particulier qui excède la seule nécessité du commerce, qui devient un agent de service public, quasiment, quoi.
Tout à fait. Les libraires sont animés, en général, par ce genre d'idéal et de projet.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et un book club de France Culture consacré à la librairie indépendante, à l'occasion d'une actualité un peu chahutée pour les librairies indépendantes, mais aussi la parution d'un livre qui s'appelle Le Petit Commerce de l'Indépendance, sociologie de la librairie au début du XXIe siècle, aux presses universitaires de Rennes, que vous signez, Sophie Noël. On va entendre la voix de Jérémy, qui est libraire et qui nous pose une question.
Bonjour Marie, bonjour le Book Club et bonjour Sophie Noël. Je suis libraire à Bordeaux, attaché aux artistes bien sûr et à l'édition indépendante. Je suis aussi évidemment attaché à ce que vous nommez très justement l'exception culturelle française, donc à savoir le prix unique du livre et la librairie indépendante. Mais toutefois ce modèle est un peu selon moi l'arbre qui cache la forêt. L'exception du modèle français est souvent brandie malheureusement pour ne pas évoquer la réalité de la chaîne du livre, qui est composée majoritairement de travailleurs précaires, et à plus forte raison les écrivains qui ne sont pas du tout protégés. Et face à la surproduction des éditeurs industriels, qui, elle, ne ralentit pas, contrairement aux vœux pieux annoncés ces dernières années, l'indépendance des librairies et des libraires est de plus en plus difficile à tenir. Et je me demandais quel était votre point de vue sur ces questions à l'issue de votre travail. Merci.
Merci beaucoup à vous, Jérémy. Il y a plusieurs choses dans les questions adressées par Jérémy. Sophie Noël, peut-être on pourrait attraper la dernière. L'idée qu'il y aurait une surproduction éditoriale, peut-être revenir là-dessus et à quoi ça sert pour les groupes ou pour les maisons d'édition de produire beaucoup. Et comment, selon Jérémy, cela menace-t-il l'indépendance des libraires et la composition de leur table, pour qu'on comprenne concrètement?
La surproduction, c'est un énorme problème pour les libraires. Ils s'en plaignent depuis longtemps. Le problème, c'est que ça n'a fait que s'accentuer. Je crois que la production a presque doublé depuis les années 50. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 40 000 nouveautés tous les ans, tous secteurs confondus, sans compter toutes les réimpressions. Donc ça fait un peu plus de 100 000 livres potentiels.
C'est énorme.
Qui arrive. Aucune librairie ne peut avoir 100 000 ouvrages et c'est même pas souhaitable. Donc c'est vrai qu'il y a...
Alors peut-être commençons par dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que ces groupes ou ces grandes maisons mettent autant de livres sur le marché ? Alors, avec quelle logique ?
Ce que les économistes expliquent, c'est que c'est le principe d'incertitude. C'est que les livres sont des biens d'expérience et que donc on ne sait pas ce qui va marcher ou pas. Et dans le doute, il vaut mieux en faire 10. Sur les 10, il y en aura 2 qui marcheront. Il y en aura peut-être 2 qui perdront pas trop d'argent et le reste ira au pilon et ne sera jamais, n'apparaîtra jamais sur les tables. C'est un principe très ancien. Ça fonctionne pour les films aussi. C'est-à-dire évidemment, il y a des livres, on sait qu'ils vont se vendre. Le dernier, Guillaume Musso, on sait a priori qu'il va se vendre. Mais les autres, on ne sait pas du tout. Il y a toujours des succès surprises. Donc, le moins risqué, d'une certaine manière, c'est de trop faire, de trop produire. Et les libraires qui sont au bout de chaîne s'en plaignent beaucoup parce que eux, ils ne peuvent pas absorber tout ça. Ça leur demande trop de travail. Et puis, c'est une impression d'être noyé. Et sans doute, le phénomène qu'on qualifie de best-sellerisation, c'est-à-dire de polarisation croissante sur un petit nombre de titres, est une des conséquences.
C'est une réponse à ça, c'est-à-dire bon, finalement on est noyé, on ne sait pas où regarder, on va vendre 4 livres qui sont sûrs, quoi.
Exactement.
Donc tout le monde, au lieu de la grande prise de risque intellectuelle et artistique que vantait Jérôme Lindon dans l'archive de 88, en gros tout le monde va centraliser ou bien centraliser en vendant quelques titres, ou alors ne plus rien risquer en y allant sur 10 chevaux et en imaginant qu'il y en a un qui va marcher, quoi.
Exactement. C'est rationnel en fait, même si le résultat est irrationnel.
C'est rationnel du point de vue économique en tout cas.
Économique, ouais. Et rationnel, mais c'est pas praticable. Et ça va aussi avec le fait qu'avec Internet, on a accès à des millions de références. Et donc, comment vous organisez ces millions de références? Comment vous les rendez accessibles? Comment vous assurez que les gens vont y avoir accès?
Mais alors quand même, moi, en vous écoutant, Sophie Noël, je dirais, la réponse est très claire, décroissance toute. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde produise moins pour que ça se vende mieux, non? Pourquoi est-ce que ça marche pas?
Ça marche pas parce qu'il y a des gros intérêts économiques derrière. Quand vous avez des grosses maisons d'édition, des groupes éditoriaux qui ont des équipes, qui ont...
Plus on est gros, plus faut faire gros, quoi.
Oui, et puis souvent, c'est des groupes comme Hachette, Editis, enfin, les gros groupes éditoriaux, ils ont une activité de distribution du livre qui est là où se réalise l'essentiel des profits. Mmh. C'est le maillon le plus profitable de la chaîne du livre, c'est celui de la distribution. Donc, ils ont intérêt malgré tout à alimenter la machine. Ils ont des énormes plateformes de distribution du livre et il faut qu'il y ait du flux.
Il y avait une autre question, au moins deux autres questions dans ce message laissé par Jérémy. L'idée selon laquelle, dans cette grande chaîne dont nous parlons depuis tout à l'heure, Sophie Noël, les auteurs, autrices seraient les moins protégés. Et peut-être l'idée qu'il y aurait une façon de vanter le système français. Alors, il se trouve que vous proposez une comparaison avec le système anglais. Alors, allons-y sur ces deux questions-là.
Alors, peut-être pour rebondir sur ce que la question du libraire, c'est vrai que l'indépendance cache beaucoup de précarité. Et le monde du livre, en général, est un monde où il y a énormément de précarité, en librairie, hein, des gens qui sont très mal payés,
on l'a dit,
dans les maisons d'édition, enfin, et au niveau des auteurs et des autrices, bien sûr. Donc, ça fait partie de ces espaces avec des forts contenus symboliques, donc beaucoup de prestige, c'est prestigieux de travailler dans
le
monde
du livre. Mais peu de traduction dans le contenu économique.
Voilà, exactement. D'une certaine manière, il faut payer le prestige symbolique par de faibles rémunérations économiques.
Sauf pour les grands groupes dont vous parliez.
Voilà, sauf pour une minorité de personnes. Mais il y a énormément de frustrations liées à cette précarité. Donc il y a un petit côté un peu cache-misère. Effectivement, on a des grands principes et derrière, la réalité n'est pas toujours très glorieuse ou très facile. De même qu'avoir une librairie en milieu rural, c'est pas la même chose, ou en Seine-Saint-Denis, qu'avoir une librairie dans un centre-ville d'une grande ville universitaire.
Très bourgeois et très
avec une bonne clientèle, etc. Donc il y a une grande disparité de situation.
Et puis, il y avait la proposition que vous faites dans votre enquête, c'est-à-dire d'avoir un regard outre-Manche sur un autre marché du livre. Alors, sans rentrer dans le détail, vu l'heure qu'il est là, mais qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller regarder en Angleterre, dont vous dites que c'est l'un des marchés du livre les plus dérégulés, Sophie Noël?
C'était une situation de laboratoire absolument rare, puisqu'on avait deux pays, on a deux pays proches de, économiquement, niveau de développement, de population, etc. et qui, en même temps, ont fait des choix complètement opposés en matière de politique du livre, de politique publique du livre. Dans un cas, en 81, en France, avec le prix unique du livre, et en Grande-Bretagne, un système beaucoup plus ancien que le prix unique du livre, puisqu'il datait de 1900, identique, hein, de prix unique du livre, mais qui a été abandonné en 1995, au moment où Amazon arrive sur le marché. Donc ça a créé une situation assez apocalyptique pour les libraires indépendants qui ont, jusque dans la fin des années 2015, été considérés comme une espèce en voie de disparition. Il n'y en avait presque plus.
Et alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ils reprennent des couleurs. Ils ne sont pas du tout au même niveau qu'en France. En gros, en France, il y a à peu près 3300 librairies indépendantes. Au Royaume-Uni, il y en a un peu moins de 1000. Donc, vous voyez, à population égale, on n'est pas du tout sur le même scénario. Mais malgré tout, elles ont, au bout d'un moment, les librairies ont compris qu'il fallait qu'elles arrêtent de concurrencer les supermarchés et Amazon sur le prix.
Et se situer, peut-être en revenant au début de notre conversation, du côté du commerce spécifique, de la prévalue du conseil et vraiment de ce qui se met là en circulation, autre que des seuls objets vendables. Alors, je le disais en début d'émission, on a eu envie de faire cette émission parce qu'il y avait la parution de votre enquête sociologique, mais aussi parce que le 20 novembre dernier, des personnes de la droite au Conseil de Paris ont fait rejeter une subvention de 500 000 euros destinée à 40 librairies indépendantes. C'est une aide qui devait, par exemple, aider à financer des travaux de rénovation, des travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées, des améliorations d'éclairage. Et puis, il y avait cette question économique et des questions d'attaque, de vandalisme. On va revenir à la Petite Égypte, cette librairie menée par Alexis Argyroglou. Il nous parle de ses attaques et de ce que ça symbolise pour lui.
Le 15 novembre dernier, nous recevions Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, pour présenter son livre extraordinaire « Quand le monde dort, récits, voix et blessures de la Palestine » aux éditions Mémoire d'Encrier. Le matin de cette rencontre, je faisais l'ouverture du magasin et je découvre la vitrine recouverte d'un tag répugnant, diffamatoire et sexiste, enfin un combo gagnant, quoi. Réalisé avec une peinture à l'acide qui était utilisée dans d'autres librairies, hein, Violet & Co par exemple, et d'autres. Et donc une dégradation matérielle qui s'inscrit à la librairie, alors suite à une série de messages haineux en ligne, hein, qui précédaient l'événement, mais qui s'inscrit surtout dans une longue suite d'actes de vandalisme visant les librairies à Paris et partout en France. Alors au-delà des librairies, il me semble que cela révèle bien la montée de l'extrême droite en France comme ailleurs, qui s'illustre par la vandalisation de la vie démocratique, alors sous différentes formes, hein. Dégradation, intimidation, intervention d'élus, divers et variés, puis bien évidemment achat de médias et de maisons d'édition, ce qui est particulièrement inquiétant.
On entendait la voix d'Alexis Argyroglou de La Petite Égypte à Paris. On a commencé tout à l'heure, Sophie Noël, en disant combien est-ce que les librairies indépendantes que vous avez étudiées dans cette enquête sociologique étaient le reflet du monde. Ici, là, Alexis Argyroglou parle de ces attaques-là que lui a subies, mais que d'autres librairies ont subies. Il y a un article d'Elisabeth Philippe qui est apparu dans le Nouvel Observateur qui, elle, interview Naza Schiffer qui prend la parole au nom de Paris Libraire et qui dit vraiment la librairie indépendante, c'est une chambre d'écho du climat social et politique, qui rappelle par exemple le plasticage des librairies en 1962 dans un autre climat politique extrêmement tendu, et qui disait que la liberté de choix, qui est donc un des grands ingrédients de la librairie indépendante, était mise en cause de part et d'autre de l'échiquier politique, disait cette interlocutrice dans le Nouvel Obs, mais de manière bien plus violente d'un côté, comprendre l'extrême droite, rajoutait la journaliste Elisabeth Philippe, ce qui est aussi dit par Alexis de la Petite Égypte, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez étudié sociologiquement ce terrain-là ?
Mais finalement, c'est pas très étonnant que la librairie se trouve au cœur aujourd'hui de ces batailles idéologiques et ne serait-ce que parce que le livre, et c'est assez surprenant, est redevenu un média central. On le voit au niveau de l'édition, des rachats de maisons d'édition dans
batailles culturelles même.
Batailles culturelles, tout à fait, pour l'hégémonie culturelle, pour reprendre une terminologie gramscienne. Donc les librairies sont un espace très public, privé et public. Elles sont au cœur de la bataille culturelle aujourd'hui parce qu'elles vendent des livres.
Et donc, il y a quelque chose qui se recristallise autour, peut-être étrangement, de la puissance des idées qui peuvent circuler à travers des livres, de la puissance de ce que c'est qu'une certaine vision du monde. Finalement, ce serait symptomatique, terrible et symptomatique, ces attaques-là, d'une bataille à l'œuvre au cœur desquelles se retrouverait le livre.
Oui, ça montre la puissance du livre, finalement. Ça reste un objet potentiellement très dangereux, très puissant, qui charrie des idées, des imaginaires, et qui l'encapsule de manière pérenne.
Et est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on entendait donc dans la voix d'Alexis de la Petite Égypte, l'idée que ça révélerait aussi une montée de l'extrême droite et une façon qu'a l'extrême droite en France de se positionner par rapport à un certain champ de la circulation de la pensée, du lieu que serait la librairie. Est-ce que ce serait symptomatique de cela? Est-ce qu'on le voit aujourd'hui?
Oui, je pense que la librairie incarne sans doute... pour l'extrême droite, un lieu plutôt classé à gauche. Il n'y a pas que des librairies de gauche, mais il y a tous ces éléments de parcours qu'on a vu, de caractéristiques sociales, font que les libraires sont plutôt ne représentent pas un lieu favorable ou pour l'extrême droite, plutôt un lieu
de ses idées.
Hostile. Voilà, avec ce qui est perçu par eux comme étant une politique de choix orientée.
Le book club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On mettra sur la page du Book Club, évidemment, des ressources vers certains articles sur ce sujet-là et aussi quelques événements qui ont à voir avec la librairie indépendante, des événements plutôt festifs pour les jours qui viennent. Mais on se quitte avec le grand jeu des pages musicales. C'est un auditeur qui répond au surnom Les Pages de Titane, qui nous a proposé un extrait de Tout peut s'oublier, un roman d'Olivier Adam paru en 2021 aux éditions Flammarion, page musicale, ce jeu qui cherche la musique dans les livres. Sur le coup, Nathan ne fut pas sûr, mais elle lui donna un petit coup de coude puis éclata de rire. Étienne Dao, tenta-t-il. Bien sûr, j'adore cette chanson. J'ai faim. Vous m'emmenez dîner quelque part ? Un peu surpris, il acquiesça et ils se mirent en route. Elle se moqua de toutes les adresses qu'il lui suggérait. Un peu vexé, Nathan la laissa prendre les choses en main et ils se dirigèrent vers le pont de Sanjo et la rue du même nom. Elle le guida jusqu'à un restaurant en sous-sol où la musique jouait fort et où l'on commandait au comptoir. Les murs d'Ekati, la mosaïque serpentant sur le béton du sol, les tuyauteries et les fils électriques apparents, la faune qui le fréquentait, look savamment négligé et coupe de cheveux sophistiquée, tout signalait l'endroit branché, un peu rock, vaguement underground. On y servait principalement une cuisine internationale. À part un curry japonais, aucun plat local n'était proposé sur l'ardoise. June se moqua de nouveau de lui quand il lui avoua que ce serait son premier repas non strictement japonais depuis son arrivée ici et que même en France, il mangeait nippon aussi souvent que possible. Elle, bien sûr, ne rêvait que de cuisine française. Elle n'était d'ailleurs pas la seule. Partout dans la ville, au fil des années, les boulangeries-pâtisseries françaises avaient fleuri et dans les librairies, une bonne moitié du rayon cuisine était désormais consacrée à l'art de faire le pain, comme à Paris.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie.
Merci beaucoup Sophie Noël d'avoir été avec nous pour évoquer les librairies indépendantes. On renvoie à votre étude Le Petit Commerce de l'Indépendance, paru aux Presses Universitaires de Rennes. Pour la deuxième fois cette semaine, je laisse le générique à Moussa.
Merci à toute l'équipe qui travaille et rend possible cette émission, et en particulier aujourd'hui à Léa Weisgruss. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, et à la réalisation, Cassandre Puel. Le Book Club continue et se partage sur Instagram et en suivant le compte de l'émission. C'était Moussa et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans le Book Club.
On veut que tu reviennes tous les jours.